chant, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en soumissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se tisser des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Il y a Toulouse. Et Radio Primitive sur un, c'est pas si que Radio Primitive y soit. Allez. Les Grégor, une parole narcisse communiste.
Bonsoir à tous. Oui, ce soir, on va consacrer l'entièreté de notre émission au mouvement des sages-femmes qui s'est déroulé et qui dure
encore. Et qui dure encore. Parce qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation importante.
C'est ça. En écoutant un son de nos camarades de Vive la Sociale, je crois, c'est ça ? Tout à fait, qui passe sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, Radio FPP, qui se situe à Paris. Ça dure une cinquantaine de minutes.
On se retrouve après. Mercredi dernier, non, c'était mardi dernier, les sages-femmes. Femmes, enfin, se sont rassemblées devant le ministère de la Santé. Elles étaient, une bonne centaine, peut-être plus, je sais pas.
200 exactement. Et il y en avait à peu près une centaine devant pas mal d'ARS de province. Donc, ouais. Il y a eu, voilà. Mais la manifestation où il y avait vraiment du monde, c'est celle du 7 novembre. Qui a été le point d'or, puisqu'il y a eu 4000 manifestants de toute la France qui ont manifesté à Paris. Les dernières manifestations de sages-femmes, il y a eu 2011 et avant 2001. Donc on voit.
2001.
Oui, la première grosse manifestation de sages-femmes, il y en a eu plusieurs. Il y a eu une grande mobilisation en 2001. Et où on avait obtenu un certain nombre de satisfactions au niveau des salaires un petit peu, puisqu'on avait été augmenté suite à cette mobilisation d'environ, à l'époque, entre 800 et 1000 francs. Voilà.
Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'un même mouvement, d'un même mouvement revendicatif, ou c'est quelque chose qui a évolué?
À l'époque, en 2001, il y avait une demande des élèves de passer par médecine, parce que à l'époque, beaucoup de sages-femmes avaient fait une année de médecine avant de rejoindre par concours l'école de sages-femmes. Au sein des sages-femmes, c'était pas tout à fait unanime, et moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas spécialement pour passer les études de médecine, et puis après il y a eu les changements au niveau de l'université, et il y a eu ce qu'on appelle le LMD. Donc effectivement, maintenant les sages-femmes font 5 ans d'études en passant par la première année de médecine avec un concours classant, et elles choisissent souvent maintenant sages-femmes par défaut, c'est-à-dire que d'abord c'est médecine. Ensuite, c'est chirurgien-dentiste et ensuite sage-femme. Voilà. Donc, c'est un recrutement qui a quand même complètement changé, et il y a 5 ans d'études. Et le salaire n'a pas suivi.
Une année de médecine et 4 années spécifiques.
Oui, une année de médecine et 4 années spécifiques. Et souvent une ou deux années de médecine, puisque elle redouble la première année de médecine, puisque le concours est à la fin de la première année et que c'est un concours avec bien sûr un numerus clausus. Alors, à suite aussi à la mobilisation de 2001, le nombre de sages-femmes avait été réaugmenté, ce qui maintenant aboutit quand même avec les restructurations, la tarification à l'activité, parce que maintenant dans les maternités, avant, pour un certain nombre d'activités, on avait un budget. Maintenant, on tarife très précisément au nombre d'accouchements, au nombre de pathologies, l'argent qu'on donne aux maternités. Donc, toutes les maternités, comme tous les ans, on baisse le prix d'une naissance, c'est-à-dire que le même accouchement en 2008, maintenant, pour le même accouchement, on touchait par exemple 2000 euros en 2008, maintenant on n'en touche que 1950.
Et se justifier comment ça?
C'est parce que on est dans ce qu'on appelle une enveloppe fermée, c'est-à-dire qu'il y a le même argent pour toute la santé, mais il y a des dépenses en plus. Donc on fait baisser les actes. Donc il y a eu une course à l'acte pour toucher plus d'argent, mais le résultat c'est qu'on baisse l'acte. Voilà, donc accoucher aujourd'hui en 2013, disons qu'un accouchement est rémunéré moins cher par la Sécu que ce qu'il était en 2009. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus le prix d'un accouchement baisse, alors que tout augmente. Donc conclusion, vous n'avez pas 36 choix, c'est de faire de plus en plus de naissances, avec toujours le même personnel. Et une masse salariale qu'on comprime. Donc le résultat des courses, c'est qu'il n'y a plus d'augmentation de salaire dans les hôpitaux. Il y a une baisse des effectifs et une augmentation de l'activité.
Et ça depuis quand, plus ou moins?
La tarification à l'activité a été mise en place en 2008, et sous Sarkozy, il faut quand même le dire, et que ça a augmenté les actes. Et comme, par exemple, une césarienne rapporte plus, dans les hôpitaux, il y a eu quand même très sensiblement une augmentation du nombre de césariennes. Donc, pour des raisons sans doute, parce que quand on travaille plus, il faut un peu se protéger, mais en même temps, comme ça rapporte pas mal, pourquoi pas? Donc, ça a une logique d'augmentation des actes.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il faut se protéger? Du point de vue de qui?
C'est-à-dire que les médecins, quand tu as trois femmes qui accouchent en même temps, tu ne peux pas être au four et au moulin, tu vas vite faire une césarienne pour pouvoir t'occuper des autres. Donc, ou alors tu vas décider rapidement d'un déclenchement parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc, d'une certaine façon, on voit que ce système de tarification à l'activité n'est pas forcément bon pour la santé publique. C'est-à-dire que la mortalité féminine ne diminue plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas des très bons chiffres, en particulier en Ile-de-France, là où il y a des énormes usines à bébés. Et le nombre de césariennes et d'extractions instrumentales, c'est-à-dire de naissance par forceps, augmente. Et de non-respect des femmes. Donc il y a quand même, au bout de la course, les sages-femmes sont lésées sur plein de points de vue. Parce que d'abord, elles ne savent pas bien se défendre, donc elles n'ont pas su mettre des quotas de sécurité. C'est-à-dire que le nombre de sages-femmes par nombre d'accouchements n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une maternité comme Crémin-Bicêtre qui a juste 3600 naissances et seulement 3 sages-femmes en salle de naissance. Une sage-femme aux urgences.
Donc elles accouchent 1000 personnes par an.
C'est 3 sages-femmes par 24, qui sont en permanence là. Bien sûr, pour faire une équipe 7 jours sur 7, 3 fois sur 7 jours, ça te fait 3 fois 5, 15 à peu près, ça fait 15 sages-femmes seulement pour 3600 accouchements. Une sage-femme, elle peut difficilement faire plus d'un accouchement par 12 heures. Et actuellement, dans beaucoup d'hôpitaux, elle est amenée à en faire 2 voire 3. Ça veut dire dans ces cas-là qu'il y a maltraitance des femmes. Parce qu'un accouchement, c'est long, il y a tout le suivi, il y a la naissance, il faut s'occuper du bébé, et il y a aussi tout le côté administratif. Donc, normalement, ce qu'avaient demandé les sages-femmes en 2011, c'est chaque fois qu'il y avait une femme, une sage-femme. Mais on est loin du compte. On est plutôt à 2-3 femmes par 12 heures pour une sage-femme. Voilà. Donc c'est ça, c'était ça la problématique en 2011. On n'a absolument pas avancé en 2013. Donc la situation est explosive. Donc on culpabilise un petit peu les sages-femmes en les faisant toujours travailler plus. D'autre part, ben, d'une certaine façon, comme il y a une surenchère médicale pour pouvoir sécuriser au maximum parce qu'il n'y a pas assez de personnel, ben, les sages-femmes ne s'y retrouvent pas parce qu'il n'y a plus de physiologie. C'est-à-dire que le respect du temps qu'il faut pour la naissance n'est plus respecté. Une femme qui ne souhaite pas de péridurale, on ne lui laisse pas le choix, on lui impose la péridurale. Une femme qui a envie de marcher par son accouchement, on n'a pas le temps. Une femme qu'il faut accompagner, faire pipi, on n'a pas le temps et hop, on la sonde. Donc on augmente les gestes médicaux qui en plus rapportent plutôt de l'argent. Ce qui ne rapporte pas de l'argent, c'est d'accompagner les femmes. Un accouchement complètement physiologique avec le système de la T2A fera moins gagner à l'hôpital et le mettra en déficit. Donc plus il y a d'accouchements compliqués, de pathologies dans un hôpital, plus l'hôpital ne sera pas en déficit. Donc c'est une logique, on dirait, c'est une logique consumériste, voilà, où on gaspille beaucoup et où ben finalement l'être humain ne s'y retrouve pas. Parce que plus on fait d'actes, plus on peut prendre risque et plus on a des chiffres qui sont pas si bons que ça. Alors, on a l'impression d'agir, mais est-ce que c'est un peu comme quand on donne trop de médicaments? Trop de médicaments, c'est pas forcément bon. Donc là, on est dans la même chose. L'accouchement, c'est un acte physiologique. Donc ce que réclamaient quand même les sages-femmes, c'était le retour à la physiologie. Donc de créer une filière physiologique. Donc ça, c'est une partie des sages-femmes qui vraiment le revendiquent et qui disent aussi qu'il faut remettre des sages-femmes dans les salles de naissance. Donc ça, c'était une des revendications. C'est ce qu'on appelle... Alors, c'est un peu un terme compliqué, c'est la révision des décrets de périnatalité de 98. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 98, il n'y avait pas de maternité pratiquement de plus de 3000 naissances. Maintenant, toutes les maternités font 3000 naissances. Donc, les décrets qui avaient été mis en place en 98 pour des maternités entre 1000 et 2500 naissances, ben, sont obsolètes, donc il faut les revoir. Donc, ce qu'on appelle la révision des décrets de périnatalité, parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de sages-femmes dans les maternités et que maintenant, on met les femmes en difficulté. Et les sages-femmes. Et on a culpabilisé les sages-femmes et maintenant, on les criminalise. C'est-à-dire que des hôpitaux comme Kremlin-Bicêtre, ben les femmes, comme elles ne sont pas super bien, ben les jours de pointe, comme elles peuvent ne pas avoir été accueillies à la hauteur de leur attente, ben ça peut provoquer des soucis. Donc, pas d'explication, une prise en charge trop rapide, ben après ça fait des procès. Voilà. Et on se retrouve avec des sages-femmes qui, à 30 ans, ont déjà du pénal sur le dos.
Tu disais tout à l'heure que...
Alors moi, je travaille à l'hôpital Pierre Rouquès, on est à 3000 naissances.
C'est où
Hôpital Pierre Rouquès, c'est ce qu'on appelait avant les Bluets, qui était dans le 11e, rue des Bluets, qui est une maternité très connue, puisque c'est là qu'est née la préparation à l'accouchement dans les années 50, et que le docteur Lamaze a vulgarisé cette méthode de préparation à l'accouchement. D'ailleurs, le docteur Lamaze est très connu aux États-Unis, au Japon, mais pas tant que ça en France. Comme toujours, on n'est jamais connu dans son... On n'est jamais reconnu par les siens. Donc, ça a été donc un hôpital qui a été très connu à cette époque-là. Et puis, nous, en 2007, on a déménagé de la rue des Bleuets, on est passé dans le 12e rue Lasson, accolé à Trousseau, dans une maternité... Trousseau, qui était aussi une nouvelle maternité, puisque c'était Rothschild qui a déménagé pour revenir sur l'emplacement de Trousseau. Donc on a deux maternités côte à côte. La maternité Trousseau, qui fait environ maintenant 3600 naissances, alors qu'ils en faisaient, il n'y a même pas 5 ans, 2000. Voilà. Donc eux aussi ont beaucoup augmenté l'activité, mais entre-temps, eux... ont récupéré une partie du personnel de la maternité de Saint-Antoine qui a fermé entre-temps en 2012. La maternité de Saint-Antoine faisait 2500 naissances environ, 600 interruptions de grossesse, et la maternité de Trousseau au départ faisait 2600 naissances quand ils ont commencé à habiter au site rue Lasson, mais maintenant, depuis la fermeture de Saint-Antoine, ils ont pris 1000 naissances de plus. Et c'est une maternité, ce qu'on appelle de niveau 3. Alors ça, c'est un peu technique. Ça veut dire qu'ils prennent en charge les prématurissimes. les bébés qui naissent très très tôt. Oui, ce sont des sages-femmes qui se... Les sages-femmes actuellement, donc effectivement, bon, dans des établissements comme les Bluets, nous n'avons pas eu de pénal depuis très longtemps. On a des conflits, hein, bien sûr, avec les patientes. Ça peut arriver, mais pour l'instant, nous, on n'a que du civil. Le pénal, c'est quand même extrêmement violent. Ça veut dire des sages-femmes qui sont convoquées chez les flics, hein. Elles passent 2 heures au commissariat et elles sont triturées dans tous les sens. Donc, c'est très traumatisant. Et c'est des jeunes sages-femmes qui ont 30 ans. Et là, il y a surtout... Les 3 sages-femmes avaient un pénal. Enfin, je veux dire, c'est affolant, quoi. Et j'appelle ça la criminalisation des salariés, c'est-à-dire que c'est des jeunes sages-femmes. Alors bien sûr, l'hôpital va sans doute les protéger, hein. Je sais que ça veut dire qu'elles sont pas... Il y a l'enquête qui va courir, mais c'est quand même d'une violence pour des gens qui gagnent 1 800 € par mois et qui font 2-3 heures en plus sur leur garde tous les jours et qui bossent comme des fous. C'est quand même quelque chose qui est très nouveau dans la profession. Donc je pense qu'effectivement, des filles qui ont fait 5 ans d'études, qui se retrouvent avec des salaires absolument pour des métiers dits féminins, qui n'ont absolument pas été revalorisés et où on a demandé, où on demande des études extrêmement sélectives, il y a quelque chose qui effectivement alimente une colère qui ne retombe pas. Voilà, donc les choses qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, déjà les sages-femmes pour 3 ans d'études étaient mal payées, mais avec 5 ans d'études et la responsabilité qui augmente, les conditions de travail qui s'aggravent de façon terrible, effectivement, là, il y avait une colère absolument monstrueuse le 7 novembre. Voilà. Moi, j'étais au niveau des Bluets, les sages-femmes des Bluets, on est environ 40, une quarantaine. Hein. Bon, il y a des remplaçantes, mais voilà. Et il y avait, à la première assemblée générale, il y avait 30 sages-femmes qui sont venues. Donc, on sent que, voilà. Et nous aussi, nous, on est, par exemple, 3000 naissances et 250 accouchements par mois. Et au mois d'octobre, on a fait 264. Alors, 14 accouchements en plus, on croit que c'est rien, mais si, c'est des femmes. Et avant, on ouvrait une maternité avec 30 accouchements par mois. C'était une maternité entière qui travaillait pour 30 naissances. Maintenant, on vous augmente de 30 naissances et on vous diminue le personnel. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Parce que, au bout du compte, ce sont quand même les femmes qui sont de moins en moins entourées, avec des traumatismes. Parce que s'il y a du pénal, c'est qu'il y a des gens qui ont mal vécu des choses. Voilà, quelles que soient les raisons. Donc, ça veut dire qu'il y a une criminalisation et voilà quoi. Donc, il y avait un vrai ras-le-bol. Alors, le problème, c'est que ça a été un petit peu mis en place, cette mobilisation. Elle est née avec une demande un peu compliquée de statut médical. Alors, mais au-delà du statut médical, moi, je pense que la vraie colère dans les salles de naissance... c'est le fait qu'on perd de notre autonomie puisqu'on travaille comme des fous et qu'on ne peut plus réfléchir. Donc là, on ne réfléchit plus, on obéit à des protocoles et ça devient absolument pas du tout le respect de la physiologie et de la demande des femmes. Donc voilà.
Il y a aussi l'enfant qui est peut-être malmené aussi.
Je dirais que je pense que c'est plus les femmes qui sont malmenées dans cette histoire et le lien avec l'enfant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, avec les techniques de détection, etc., les enfants, peut-être si l'extraction instrumentale les traumatise plus, s'il y en a plus, mais bon, un bébé qui naît par césarienne ou par les voies naturelles, je ne sais pas s'il est plus traumatisé ou pas. Je pense que par contre, le lien avec les femmes, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de boulot, on sépare les mères des enfants. Mais à une époque où on avait moins de boulot, on a aussi séparé les mères des enfants. Donc l'humanisation, elle est née à peu près dans les années 70-80, où vraiment dans les maternités, il y a eu un vrai, véritable effort grâce à la préparation à l'accouchement, grâce à la prise en charge globale, et puis avec la découverte que les bébés souffraient de la douleur des enfants. Puisque ça date, c'est pas très vieux. Hein. Ça fait que 20 ans à peu près qu'on a pris conscience que les enfants étaient douloureux. Donc il y a une prise en charge qui a beaucoup progressé partout. Et là, on repart en arrière. Donc c'est ça qui est tout à fait... on n'est pas seulement dans une régression au niveau des salaires, des conditions de travail, mais on est aussi une régression sur la façon de prendre en charge les femmes avec qu'elles n'ont plus le droit à la parole parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. On recommence à faire avoir des femmes qui accouchent dans les salles d'attente des hôpitaux parce qu'il n'y a personne, parce qu'il y a trop de boulot et qu'il n'y a pas de professionnels pour les accueillir. Donc c'est ça. En province, on a beaucoup d'accouchements dans les voitures des pompiers parce que justement les maternités ont fermé, puisque toutes les petites maternités ferment, mais même les moyennes, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place. Il y a aussi le manque de médecins. Et donc, il y a des maternités qui ont un peu fermé par un recrutement de médecins insuffisant et des difficultés de fonctionnement. Comme la Seyne-sur-Mer, c'est absolument scandaleux d'avoir fermé la maternité de la Seyne-sur-Mer, parce que c'était une maternité avec 1700 naissances, et on a organisé un petit peu, hein, pour des raisons économiques, la fermeture de cette maternité en faisant pas d'efforts sur le recrutement des médecins. Et conclusion, ça s'est dégradé dans une période de pénurie, voilà. Et puis on dit, c'est mieux d'aller accoucher à Toulon. À Toulon, ils ont augmenté leur nombre de naissances et les femmes sortent un ou deux jours. Donc il y a vraiment une maltraitance des femmes, voilà.
Et donc ça, de ton point de vue, c'est vraiment directement lié à l'introduction d'une espèce de logique comptable liée l'activité à l'acte.
Alors je pense que il y a plusieurs choses. La difficulté des maternités, c'est essentiellement effectivement ça s'est vraiment aggravé avec la tarification à l'activité et la réduction des budgets. C'est-à-dire que toute la souplesse qu'on avait un petit peu à une époque, on la perd. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on arrive sur le marché des sages-femmes hyper spécialisées, hyper techniciennes. Qui sont payés comme un homme qui aurait fait bac plus 5, on ne le paye pas 1800 euros. Quand c'est un ingénieur informatique, alors une femme qui s'occupe des femmes, on ne la paye pas, c'est tout. Je pense qu'effectivement, ces métiers dits féminins, alors on nous bassine tous les jours qu'il faut revaloriser, qu'il faut faire la parité. La première parité, c'est de revaloriser le métier de la sage-femme qui s'occupe des femmes. Voilà. Et après, on pourra nous parler de parité. Parce que ça, c'est le gouvernement qui est responsable. Donc, qui ne demande pas aux entreprises de faire, alors que lui, il n'est même pas capable de revaloriser ses métiers dits féminins. S'il y a un métier féminin par excellence, dit féminin par excellence, c'est la sage-femme. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment dans ce côté du bénévolat que font les hospitaliers des années 50. Et on se permet de faire travailler les sages-femmes. C'est inadmissible. Je pense que il n'y a pas une seule personne qui peut dire que c'est admissible de voir ce qu'on voit actuellement dans les salles d'accouchement. Et ça explique ces femmes qui sont pas du tout revendicatrices ont réussi à être 4000 dans la rue, alors qu'elles sont toutes assignées. Faut quand même le dire. Puisque quand on est en service d'urgence, dans les salles de naissance, on ne peut pas faire grève. Hein, on n'a pas le droit.
Là, c'est quand même remarquable d'être arrivé à descendre aussi nombreuses, malgré tout.
Voilà, c'est remarquable. Alors après, je pense que malheureusement, on est un petit peu instrumentalisé pour la demande du statut médical. Parce qu'effectivement, le statut médical, c'est une bonne chose d'avoir un statut médical. On l'a, le statut médical, puisqu'on est une profession médicale à compétences limitées. Mais dans la demande de statut médical, il y a une partie tout à fait notable de gens qui sont dans le libéral, qui veulent un petit peu que les sages-femmes de la fonction publique hospitalière sortent de la fonction publique. Parce qu'elles pensent que si on était comme les médecins, on aurait un meilleur salaire. Et là, je pense qu'on oublie quand même quelque chose, c'est qu'en étant fonctionnaires, les sages-femmes ont intérêt de rester dans la fonction publique. Alors là, il y a une petite divergence dans le mouvement des sages-femmes qui complique les choses et on oublie de l'essentiel qui est la revalorisation de ce métier. Voilà. Et son autonomie et la création des filières physiologiques au sein de l'hôpital, c'est-à-dire des filières où il n'y ait que les sages-femmes qui décident et que ça ne soit pas complètement des prises de pouvoir des médecins. Voilà. Donc il y a effectivement des prises de pouvoir dans les hôpitaux, mais qui sont à mon avis autant du fait du pouvoir médical que de l'augmentation de l'activité. Voilà. Mais ça c'est mon analyse bien sûr. Et là, c'est l'analyse de Sud.
D'accord.
En libéral, ont eu une demande en 2011, elles l'ont eu, c'est-à-dire c'était une revalorisation des actes de la Caisse primaire d'assurance maladie. Elles l'ont un petit peu obtenu avec les retours précoces à domicile, le PRADO, et en échange de ça, elles ont négocié plus ou moins un zonage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre plus de sages-femmes dans des régions où il y a déjà des sages-femmes, de répartir géographiquement les sages-femmes. Moi, j'étais plutôt pour le zonage, parce que je pense que il y a vraiment des endroits où il manque de sages-femmes, et c'est important que les sages-femmes ne fassent pas comme les médecins, s'installent que dans les endroits où ils veulent s'installer, et non pas dans les endroits où on a besoin de s'installer. Donc ça, moi, j'étais plutôt d'accord. Le système du PRADO, par contre, j'y mets un peu des bémols. C'est-à-dire que le PRADO, c'est quelqu'un de la Sécurité sociale qui dit aux femmes, rentrez à 2 jours à la maison parce que vous avez eu un accouchement physiologique. Alors, je pense qu'un accouchement physiologique ne veut rien dire. C'est qu'on ne peut pas toujours dépister une difficulté, et les retours à la maison, en particulier dans la région parisienne où les femmes sont très très peu entourées, ça pose des problèmes, en particulier au moment de la montée laiteuse, et ça remet en cause les allaitements. Il est vrai que lorsqu'à l'hôpital on maltraite les femmes par manque de personnel, c'est sûr qu'il vaut mieux être à la maison. C'est un petit peu ce qui se passe en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, les femmes, elles sont dans des chambres de 8 à 10 femmes. Et c'est sûr que quand elles sont 8 à 10 par chambre, elles n'ont plus une envie, c'est de rentrer à la maison. Même si ça fait foirer leur allaitement parce qu'elles sont toutes seules à 3 heures du matin. C'est humain. Alors en France, on a des chambres seules plutôt, ou des chambres à 2 lits. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Donc la plupart des femmes ne veulent pas sortir à 2 jours. Et quand on a fait des programmes où les femmes sortent très tôt, on a beaucoup d'échecs d'allaitement pour les difficultés qui apparaissent à 3-4 jours. Donc, et la sage-femme à domicile, malheureusement, ne peut pas venir à 3 heures du matin. Donc, attention, c'est un jeu qui, effectivement, nous fait jouer, puisque l'objectif de la tarification à l'activité, c'est de faire sortir tout le monde de l'hôpital, même quand c'est un peu prématuré. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la tarification à l'activité, qui impose des séjours plus courts, puisque sinon ça coûte cher à l'hôpital. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on baisse le prix du forfait accouchement, puisqu'il y a le séjour qui est pris en charge en même temps. Voilà. Voilà un petit peu les logiques qui sont derrière. Les sages-femmes, là, sont mobilisées. Il y a eu, en fait, pourquoi la mobilisation est née, cette fois-ci, c'est parce que ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de négociation dans la fonction publique hospitalière sur les salaires des sages-femmes. Et donc à l'occasion du c'était donc le 13 novembre la réunion, et il y a eu cette mobilisation du 7 novembre, et il y a donc maintenant 4 groupes de travail qui vont être mis en place pour discuter du statut, etc. et de la revalorisation salariale. Nous avons un peu peur que ces groupes de travail fassent mourir le mouvement, et c'est un peu les stratégies du gouvernement de parler du statut ou de parler de l'essentiel, c'est-à-dire le nombre de sages-femmes dans les salles de naissance et dans les services. Et aussi, il faut savoir que de moins en moins d'hôpitaux font le suivi et la préparation à l'accouchement. C'est-à-dire que c'est tout à fait externalisé à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital devient qu'un plateau technique où on accouche et on se fait virer. Voilà. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est dramatique et qui, à mon avis, va être délétère.
Mais est-ce que ce suivi, cette préparation, elle est faite ailleurs?
Oui. Alors, elle est faite parfois en libéral, mais le problème, c'est que, comme a dit la MAS, pour faire la préparation à l'accouchement, c'est ceux qui font l'accouchement qui doivent faire la préparation. Quand c'est externalisé, au bout d'un certain temps, eh ben, ça n'a plus rien à voir entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que raconte la personne à l'extérieur. Et pour nous, pour par exemple Oblué, où on fait hôpital à mes bébés, c'est-à-dire une prise en charge très très importante de l'allaitement et même quand les femmes n'allaitent pas, mais la prise en charge des bébés où il y a pas, où les bébés sont mis en peau à peau, etc., etc., hein, avec une énorme prise en charge, avec une formation spécifique et tout. La préparation à l'accouchement, à l'allaitement, la préparation au premier jour, la préparation des femmes à l'allaitement et la préparation au premier jour de la naissance du bébé, si c'est fait par des gens extérieurs, ça correspond absolument pas à ce que nous on fait. Et nous, quand on a des femmes, par exemple, préparées sur l'allaitement, j'en ai encore eu une, c'était à tout à refaire. Voilà. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu la formation que nous on a eue et qui ne sont pas du tout dans ce qu'on fait. Donc après, si c'est des discours différents, la femme est perdue. Donc ça, c'est pas une bonne idée.
Et donc cette externalisation, ça répond encore une fois à une logique d'économie comptable?
D'économie comptable, parce que les sages-femmes libérales, ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Et puis, les femmes pauvres, elles n'y vont pas. Ça touche qu'une certaine patientèle.
Oui, parce que c'est en partie à la charge de la...
Ben souvent, c'est pas ça, c'est que elles n'ont pas forcément l'information et elles ne feront pas le geste. Alors que si c'est organisé par la maternité, elles se sentent un petit peu dans le groupe maternité, elles le font plus. Donc encore une fois, ça fait une médecine aussi à deux vitesses. Voilà. C'est pas forcément une bonne idée. Alors je parle pas des consultations en dehors de l'hôpital. La plupart font des consultations chez le gynéco où il y a des dépassements d'honoraires. Parce qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires en général dans les hôpitaux. Alors moi, je travaille dans l'hôpital Pierre Rouquès, les Bluets, comme je disais tout à l'heure, et donc nous, on n'est pas du tout liés à la fonction publique hospitalière. Donc on s'en fout un peu de ces histoires de statut, d'une certaine façon, mais nous, on aimerait bien la revalorisation. Car quand le public est revalorisé, le privé à but non lucratif, c'est-à-dire le privé associatif, en général, on suit de moins en moins, puisque maintenant, avec la tarification à l'activité, les budgets sont serrés, et que s'il n'y a pas les moyens, on ne nous file pas les augmentations. Donc maintenant, on appelle ça l'opposabilité des conventions collectives, c'est-à-dire qu'avant, quand il y avait une décision qui était prise, l'employeur était obligé d'appliquer la décision par la convention collective. Et bien maintenant, l'employeur peut dire « je suis en déficit, donc je n'applique pas ». Donc on voit quand même, pareil, depuis 4-5 ans, la régression sociale dans laquelle on est. C'est-à-dire plus d'augmentation de salaire. S'il y a des acquis qu'on obtient par branche, on peut ne pas nous les appliquer, etc. etc. Donc, et on nous augmente la quantité de travail. Donc au Bluet, nous, par exemple, suite à ce mouvement, on a réussi à obtenir que les 15 minutes de transmission qu'on faisait depuis des années soit pris en compte.
Donc là, en transmission, c'est-à-dire
que quand une sage-femme s'en va, il y en a une autre qui arrive. Donc on faisait du RAB, et là, ça va être pris en compte. On va être normalement, on va récupérer ce temps. Par contre, les heures de staff, c'est-à-dire quand on sort de 12 heures de nuit, on fait une heure de transmission dans une salle avec les médecins, etc. Cette heure n'est toujours pas payée.
Ah oui.
Donc, on est sur cette demande-là. Alors, ça concerne effectivement que les sages-femmes de salle de naissance, mais c'est énormément d'heures qui ne sont pas payées. Donc, on est dans cette demande-là. On va voir, on va négocier, mais les personnes sont extrêmement remontées pour l'obtenir. Voilà. Et c'est le cas aussi dans le public. Il y a beaucoup de sages-femmes là qui vont demander d'être payées pour les heures qu'elles font. réellement, et en particulier puisque la nuit, dans le public, elle devrait passer à 32 heures, c'est-à-dire qu'au prorata de leurs heures de nuit. C'est-à-dire que les sages-femmes sont le seul personnel hospitalier qui n'a pas les 32 heures la nuit. Parce qu'on dit, ah ben, elles travaillent deux jours aussi. Donc elles font alternativement jour et nuit, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, mais leurs heures de nuit, elles ne sont pas sur un prorata de 32 heures. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors que c'est des infirmières.
Ben, les gens qui sont dans les autres professions sont soit de nuit, soit de jour. Ils ne font pas alternativement jour et nuit.
D'accord.
D'accord. Les infirmières, souvent, sont sur 3 mois de jour, et puis après, elles sont 3 mois de nuit, ce qui n'est pas terrible non plus. Hein. Avant, on était sur des longues périodes, soit de nuit, soit de jour. Et c'est un peu ce que demande tout le monde. Mais comme actuellement, le travail est dur partout, et voilà, les situations sont un peu comme ça maintenant, dans beaucoup d'hôpitaux.
Alors, justement, moi, ces problèmes de carence de personnel, ils se posent aussi du côté des infirmières.
Alors, les sages-femmes, il y a du chômage. Il y a 1000 sages-femmes au chômage aujourd'hui.
Ouais.
Donc, il y a 1000 sages-femmes au chômage. Il y a beaucoup plus de sages-femmes qui sont formées. Et nous, beaucoup d'infirmières sont remplacées par des sages-femmes actuellement. Parce qu'on ne trouve pas d'infirmières et on trouve des sages-femmes. Donc on voit encore que la situation des sages-femmes est très difficile aujourd'hui.
Mais moi, je pensais surtout au fait que les infirmières se plaignent aussi beaucoup de la surcharge de travail, du fait qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Il n'y a pas une jonction qui se fait de fait.
Ben, ce que vous avez pu voir, c'est que les sages-femmes, elles sont plus dans la bataille sur leur statut. Donc, on a du mal à faire la jonction. Et qu'à cause de ça, je pense que le mouvement ne va pas être aussi fort que celui des infirmières anesthésistes, qui avaient obtenu, avec une bataille extrêmement violente, puisqu'elles avaient été au ministère, avaient occupé la gare Montparnasse, et obtenu 120 euros d'augmentation. Là, actuellement, sur ce qu'ils ont l'air d'avoir obtenu, c'est 37 euros.
Mmh. Voilà. Et des groupes de travail.
Et des groupes de travail.
Ça c'est le ministère qui les a proposés.
Voilà. Actuellement, vu les négociations qu'il y a eu le 13 novembre, voilà. Donc, je pense que s'il faut dire quelque chose, il faudrait que les sages-femmes pensent un petit peu plus à la réalité, le pragmatisme, et qu'actuellement, ce qu'il faut demander, c'est une augmentation de salaire, des quotas de sécurité dans les salles de naissance et dans les services, c'est-à-dire un quota de sages-femmes par nombre d'accouchements et un quota de sages-femmes par nombre de femmes dans les services. Mmh. Là, on est vraiment dans l'urgence, parce que effectivement, la carrière d'une sage-femme hospitalière, maintenant, n'excède pas 10 ans. Donc, c'est quand même un problème.
À cause de la fatigue?
Soit elles se mettent en temps partiel, soit elles quittent. Et elles se mettent en libéral. Et comme il y a des quotas, voilà, elles sont angoissées.
Mmh.
Et on peut aussi, alors c'est là où il y a des dangers, avoir une évolution un petit peu perverse où les sages-femmes seraient, où l'hôpital perdrait sa notion de service public et deviendrait un système de sages-femmes libérales dans l'hôpital, ce qui n'est pas ce que demande la majorité des sages-femmes.
Voilà. Ça existe ailleurs qu'en France?
Alors, ce qui se passe en Pologne, il y a des infirmières qui sont auto-entrepreneurs dans l'hôpital, qui payent leur matériel, qui sont payées au lance-pierre et qui vivent un enfer comme jamais. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution à la polonaise. Vous avez l'évolution aussi à l'allemande, où il y a eu une privatisation de tous les hôpitaux. Donc il y a vraiment, avec une régression très importante des droits des salariés hospitaliers. Donc on va, si on regarde un petit peu dans l'Europe, on n'est pas vers des évolutions très favorables dans les métiers de la santé.
Justement, est-ce qu'il y a vous avez entendu parler de luttes et qui
des luttes des sages-femmes ailleurs? Moi, j'en ai pas trop entendu, mais peut-être que je suis pas très branchée sur l'international. Voilà, il y en a peut-être eu et je suis pas au courant. Voilà, il y en a eu en Angleterre à une époque, mais maintenant je suis pas très au courant de ce qu'il y a. Voilà. En France, on est quand même sur une prise en charge de la naissance qui est extrêmement médicalisée. Dans les autres pays, il y a beaucoup, beaucoup moins de prise en charge avec péridurale, par exemple. Mais les femmes françaises ont pris l'habitude d'avoir accès à la péridurale, et je pense que ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est dans une évolution française, ça ne reviendra pas en arrière.
Et comment réagissent dans l'ensemble les médecins avec qui vous travaillez?
Ça, une grève de sage-femme, c'est toujours très difficile dans une équipe. Une grève dans une équipe, un hôpital, c'est toujours très difficile. Bon, voilà, après, il y a eu des tensions, mais il y a aussi des tensions quand on... Enfin, il y avait des tensions, je pense. Les médecins aussi sont quand même soumis à quelque chose de très difficile, qui est l'augmentation de l'activité. Donc, au-delà des sages-femmes, il y a aussi des médecins qui disent qu'on vit l'enfer. Donc, à ce niveau-là, ils sont assez d'accord. Donc, ça dépend des revendications. Ils pensent qu'il faut absolument pas sortir, qu'il faut pas que les sages-femmes sortent de la fonction publique hospitalière parce que il y a des gros avantages qu'elles risquent de perdre et beaucoup de médecins nous disent attention, attention, vous connaissez pas ce statut et attention. Donc, eux, ils se disent, il faut pas renoncer à des choses très importantes comme le paiement par heure, les 35 heures, les 32 heures de nuit, la protection sociale, les enfants malades, etc., etc., qui pourraient, en changeant de statut, qu'il faut pas perdre. Donc, attention, avoir un statut sage-femme, ok, mais un statut PH, praticien hospitalier, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, eux, ils nous disent attention. Et voilà, donc ça c'est pour la fonction publique hospitalière. Pour le privé, les médecins ils vivent aussi l'enfer, donc on a aussi des médecins qui quittent les maternités parce que c'est trop difficile, il y a trop de boulot.
C'est des services particulièrement durs par rapport à l'ensemble, enfin à d'autres services hospitaliers.
Je pense que l'obstétrique c'était extrêmement violent. Je pense que les obstétriciens et les anesthésistes sont ceux, et puis les anesthésistes travaillent beaucoup en maternité, c'est eux qui sont le plus dérangés des médecins, ils sont presque plus dérangés que les gynécologues, sont plutôt plus dérangés que les gynécologues. C'est dans les métiers les plus en plus difficiles, et d'ailleurs ils se féminisent.
C'est un indice apparent.
Voilà, donc ils sont pas été spécialement revalorisés, peut-être plus que nous, mais pas particulièrement. Et surtout, la quantité de travail est considérable, quoi. Avant, ils arrivaient sur leurs 24 heures, ils arrivaient à dormir. Maintenant, ils arrivent de moins en moins à dormir. Et puis, même s'ils arrivent à dormir, les moments où ils dorment pas, c'est une activité très très intense. Voilà. Ça, vraiment, ils ont réussi leur coup au niveau des pouvoirs publics, de faire déposer des gens à un rythme effréné, avec des gens qui ont même plus le temps d'aller aux toilettes, quoi. Des gens qui mangent pratiquement chaque fois 4-5 heures après l'heure du repas, quoi. Mmh. Voilà. Donc on est quand même sur une situation qui est extrêmement tendue dans les hôpitaux, dans les maternités. Toutes les sages-femmes m'ont dit c'est l'enfer. En salle de naissance, c'est l'enfer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau.
Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement a permis de faire sortir tous ces problèmes dans les grands médias ou...
Je pense que c'est pas mal, ça donne une visibilité, ça a permis aux sages-femmes de se retrouver, de connaître les sages-femmes des autres maternités, parce qu'on est nés dans le guidon et qu'on voit pas ce que les autres subissent. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est toujours bien un mouvement, et bon, même si on n'obtient pas satisfaction, ça permet de se connaître et de savoir un petit peu et de comprendre, et je pense que c'est très important dans la maturité des sages-femmes.
Et au niveau syndical, ça a fonctionné dans l'unité
Ça n'a pas fonctionné dans l'unité puisque, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que... Enfin, vous, non, les gens ne savent pas, mais il va y avoir des élections dans un an dans la fonction publique hospitalière. Donc, la CFTC, qui est un syndicat qui est en voie de disparition dans la fonction publique hospitalière puisqu'ils n'ont pas atteint les 10% de votants et qui risquent de disparaître, ont essayé de surfer sur une demande minoritaire des sages-femmes qui est le sortir de la fonction publique hospitalière, et ça a amené de la division syndicale. Donc c'est ce qu'on a pu voir devant le ministère, ce qui est quand même pas une très bonne idée, parce qu'en fait les sages-femmes, ce qu'elles veulent surtout, c'est d'être valorisées, reconnues et de faire un travail de sage-femme et non pas un travail de ouvrière spécialisée, parce que là ça devient vraiment un travail à la chaîne.
Est-ce que tous les autres syndicats refusent cette position?
Oui, tous les autres syndicats ont refusé. Il y a eu une intersyndicale de tous les autres syndicats. Donc il y a un syndicat de sage-femme libérale qui a quelques salariés, mais qui est essentiellement un syndicat de sage-femme libérale qui est à la manœuvre et qui a demandé le soutien de la CFTC. Donc voilà. Et alors que la CFTC s'était jamais occupée des sages-femmes dans le passé. Donc on rigole, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est des trucs électoralistes. Mais en fait, l'ensemble des syndicats demandent la revalorisation du statut, la reconnaissance de leurs compétences et une revalorisation salariale à la hauteur des études. Et surtout, l'amélioration des conditions de travail, parce que là, c'est quand même catastrophique.
Est-ce que vous croyez possible qu'il y ait un mouvement d'ampleur qui, à l'échelle des hôpitaux sur la question des conditions de travail, où il y a trop de divisions entre professions, ou je ne sais pas? Parce que chaque fois qu'on entend parler des hôpitaux aujourd'hui, c'est juste
des mouvements corporatistes, oui. Des mouvements souvent par infirmières anesthésistes, des mouvements de sages-femmes, des mouvements. Il y a effectivement dans l'hôpital, il est très difficile maintenant de rassembler tous les personnels. L'échec des retraites a fait l'échec de la mobilisation pour les retraites a sans doute été une des raisons. Je pense que les gens, on est dans le guidon, c'est difficile de les réunir. Mais vous savez, les mouvements, on peut être instrumentalisé, on peut être si, mais quand la colère monte, ça peut être aussi des mouvements très très violents. Et ça, je suis incapable de dire qu'est-ce qu'il va y avoir demain, parce qu'il y a quand même un ras-le-bol. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'agence régionale de santé, qui est le nouveau préfet de la santé, était très inquiète puisqu'il téléphonait partout dans les hôpitaux pour savoir comment ça se passait. Donc ils ont vraiment peur d'un dérapage et surtout d'un accident. Voilà. Donc on voit que ils étaient extrêmement inquiets du mouvement des sages-femmes.
Et une dernière chose,
mais la grève continue dans pas mal d'hôpitaux parisiens.
Ah oui.
Ouais.
C'est-à-dire que les sages-femmes se relaient
C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les assigner, elles sont toujours en grève. Voilà, la plupart sont assignées en fait. Donc il y a un mouvement qui continue à Cochin, à Kremlin, à Necker, voilà. Donc il y a un mouvement qui continue. Nous, au Bluet, on n'avait pas décidé une grève illimitée, on avait décidé la grève sur les jours de mobilisation. Parce qu'on n'est pas fonction publique hospitalière. Mais on avait des soucis en interne et ça permet justement d'avancer. Et on va exiger aussi que dans les négociations actuellement au ministère, les conventions collectives ne soient pas oubliées.
It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the crazy movies that we know may just be passing fancies. And in time may go, but oh my dear, well our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but our love is here. Our love is here to stay.
Thank you.
here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But, yeah, yeah, our love is here to stay.
Interview de Virginie Gosset à propos du mouvement des sages-femmes.
Et est-ce que tu as des nouvelles de la mobilisation de la maternité des Lilas ?
Alors la maternité des Lilas, il y a une réunion ce soir. Il y avait le rapport Friedman qui devait donner son avis sur la viabilité du déménagement de la maternité des Lilas sur la maternité de Montreuil. Parce que, en fait, le projet de la maternité des Lilas, qui a été accepté, acté et compagnie, qui était parfaitement ficelé, a été remis en cause. C'était un projet de reconstruction aux Lilas. Le maire avait donné le terrain. Ça fait de nombreuses années que ça perdure et que l'Agence régionale de santé, au dernier moment, a bloqué en disant qu'ils n'avaient pas plus l'argent. Donc ça a été fait en deux temps. Il y a eu déjà une mobilisation il y a deux ans, ils avaient obtenu, et maintenant qu'il fallait le remettre en fait, ils ont dit « Ah, mais finalement, ils avaient demandé un certain nombre de restructurations pour pouvoir permettre de financer la reconstruction. Ils ont fait toutes ces restructurations, et au bout du compte, on leur dit « Bah non, finalement, on n'a plus l'argent, et donc vous allez vous installer à Montreuil. » Sauf qu'il n'y a ni locaux, rien n'a été prévu. Et ils veulent seulement récupérer l'activité des Lilas. Et donc, dans les locaux actuels, d'ailleurs, Friedman a dit, dans ce qui a été programmé, ça ne semble pas possible. Donc, on est dans un truc complètement bloqué, situation bloquée aux Lilas, malgré une mobilisation, malgré des promesses de Hollande, de Touraine et compagnie, qui avaient promis la reconstruction des Lilas. C'est inadmissible. Et alors que c'est une équipe qui s'est reconstruite, qui avait été très abîmé en 2011 parce que justement ils n'avaient pas le projet qui allait. Du fait qu'il y a eu la bataille et que le projet s'est reconstruit, qu'il y a eu en plus des nouveaux recrutements de médecins, une nouvelle équipe, etc. Vraiment, les Lilas, c'est une équipe qui a rebondi, où les femmes sont extrêmement satisfaites. Et d'ailleurs, ça fait partie toujours des maternités qui sont très demandées, comme les bleus. Hein. Les deux, on est sur des maternités qui sont dans l'associatif à but non lucratif, ce sont les maternités les plus demandées à Paris. Vous en avez 4-5, vous avez l'Institut Montsouris, le Franco-Brit, les Diaconesses, les Bleuets, les Lilas. Voilà, en gros, les grosses maternités parisiennes qui sont demandées. Donc, en fait, ces maternités qui sont les plus demandées par les femmes, les plus plébiscitées, parce que c'est à visage humain, et en plus les femmes ne payent rien, il y a un vrai suivi de la préparation à l'accouchement, des suites de couches de qualité. Donc ces maternités sont étranglées financièrement, et pour les Lilas, il faut absolument qu'ils soient reconstruits, on leur donne pas d'argent de reconstruction, et on veut les fermer. Les Bleuets ont été à peu près sauvés là pour 3 ans, mais on a toujours des gens à la RS qui attendent le moindre truc pour nous fermer. Donc on est extrêmement fragile actuellement, toutes ces maternités-là. Alors que c'est celles qui sont le plus plébiscitées par les femmes. C'est ça qui est quand même la folie, quoi.
Est-ce qu'au bout du compte, si on regarde ça à l'échelle de l'ensemble des hôpitaux, il n'y aurait pas une revendication logique qui serait la fin de la
tarification à l'activité? Alors, bien sûr, c'est ce que demande le syndicat Sud, la fin de la tarification à l'activité, parce que la tarification à l'activité a des effets pervers, met les hôpitaux en déficit et oblige les hôpitaux à restructurer. Et en même temps, on a des mises aux normes qui sont extrêmement exigeantes soi-disant pour la sécurité, mais aussi qui sont dans une exigence de consommation. Par exemple, pour les maladies nosocomiales, on ne regarde pas toujours la qualité, mais la quantité. Par exemple, on mesure la quantité de produits de solutions hydroalcooliques qu'on met sur nos mains. Donc, si on les jette dans les toilettes, c'est pareil. Et pas forcément... voilà. Donc, c'est très consumériste. Voilà. Il faut jeter beaucoup pour être considéré comme propre. Alors, c'est des logiques qui sont consuméristes, comme la tarification d'activité. Donc, on a une espèce d'injonction paradoxale. Vous devez être plus propre, vous devez faire mieux, vous devez avoir les meilleurs chiffres, on vous donne moins de moyens et vous êtes de moins en moins humain. Voilà. Donc, ça, c'est une énorme difficulté. La tarification à l'activité, c'est un effet pervers dramatique dans les maternités et particulièrement pour l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est pas un acte, c'est un accompagnement. Une sage-femme, elle fait rien. Elle regarde ce que la femme, elle fait. En gros. Donc, on fait du rien. Donc, ça se paye pas. Mais en fait, si on n'est pas là, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Voilà. Donc, on voit bien que la tarification a eu des effets pervers. Je vous dis, ça, depuis 2008, le nombre de césariennes augmente partout en France. Le nombre d'extractions instrumentales aussi. Et... voilà, les chiffres sont pas bons. Même la prise en charge pédiatrique n'est pas excellente. Voilà, parce qu'on va trop vite. Voilà.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Nelly Rigor. Chaque semaine, tu les Gaulle-Garrigue, Montpellier, Canal Sud, à Toulouse et Radio Primitive.